Et toi, who are you? Ce sont des rencontres sur Bram FM. Des portraits autour des cinq sens et de l'enfance. Colette a 74 ans. Elle vit seule, à Limoges, dans le même quartier que sa fille.
Je suis obèse, cheveux blancs de bébé, depuis ma chimiothérapie.
Maintenant, si tu devais te décrire, en oubliant le physique, tu dirais quoi ?
Un télo, mais qui perd la mémoire aujourd'hui. Bonne poire. Alors moi, à la naissance, si tu veux, petit bourgeois, éducation petite bourgeoise. J'ai appris récemment que je faisais partie des 30% qui avaient le bac à ma génération. Et effectivement, je suis la deuxième bachelière de ma famille élargie. Ouais. On n'était pas nombreux à aller au lycée. À l'époque, les livres étaient payants et en terminale, on avait tellement peu d'argent qu'avec une copine, on s'est partagé les livres. Sauf le livre de maths, chacun avait le livre de maths. Elle avait le livre d'anglais. Moi, j'avais géo. Non, j'avais histoire et elle avait géo. Enfin, on a fait des trucs comme ça. Les livres étaient payants. Et ça, c'est vrai qu'on ne se rend plus compte aujourd'hui ce que c'était. La rentrée scolaire. Et quand j'entends parler de rentrée scolaire, j'ai dit...
Et donc, tu étais la nana au milieu de plein de mecs au lycée ?
Alors, c'était le lycée de filles, jusqu'en quatrième. Et figure-toi, il y a un truc qui s'appelle la rationalisation des coûts budgétaires. Donc, j'en ai fait partie. Et je suis partie au lycée de garçons. Ça a été une grande vie pour moi d'aller au lycée de garçons, faire du grec et du latin. Non.
Ça fait du grec.
Ouais, non, mais arrête. Who are you? I'm the enchanting wizard of rhythm. Alors, mon plus vieux souvenir, j'avais 2 ans. On était à Agde et je découvre qu'il y a une lumière rouge et une lumière verte à l'entrée de l'Hérault. Aujourd'hui, je sais que c'est l'Hérault. Et c'était mon souvenir, donc j'en parle à ma mère en disant, tu te rends compte? Souvenir que j'ai. Et ma mère me dit de haut, bah, dans tous les ports, t'as une lumière rouge et une lumière verte. Et alors, même âge, mes parents vont se baigner dans la Méditerranée et ils me laissent sur la plage. C'est honteux. Donc je cours. Je fais bloup. Mon père arrive. Je fais bloup, bloup, bloup. Et mon père m'a sorti de l'eau. Ouais. Ça, je me souviens. Non, mais elle m'avait laissée toute seule sur la plage. C'est quoi, ça?
Enfin, à l'époque, j'imagine qu'il n'y avait pas foule sur la plage.
Non. Ils me voyaient, de toute façon. Mais bon, moi, je ne savais pas qu'ils me voyaient. Puis, ils étaient partis sans moi. Donc, ça ne se fait pas, ça.
Et tu es, au niveau familial, tu es fille unique.
Ah, alors ça, là, tu me poses une question très, très compliquée.
Ah.
Mes parents ont eu un enfant avant moi. Une fille qui s'appelait Nicole. Comme ils avaient beaucoup d'imagination, ils ont appelé Colette. Et donc ce bébé est mort, est mort-né. Et donc je suis arrivée après. Donc je ne sais pas si je suis le premier ou la seconde. Et ma sœur est là, deuxième ou troisième, je ne sais pas. Voilà. Ma sœur handicapée, la troisième.
Si tu devais associer une odeur à ton enfance, ça serait quoi ?
La cuisine, sûrement. La cuisine, je ne sais pas laquelle.
Une odeur de cuisine ?
Oui, une odeur de cuisine. Ma grand-mère cuisinait très très bien, elle m'a en partie élevée.
Genre une odeur de graillon, de cuisine qui reste bien dans toute la maison ?
La cuisine gersoise, oui, c'est sûr. Non, ma grand-mère était bordelaise quand même.
Et du coup, oui, c'était quoi la cuisine gersoise, les spécialités Parce que justement, si on va à travers les cinq sens, un goût pour ton enfance, j'imagine que ce sera la cuisine gersoise, justement.
Alors, on les appelle ou les graillons. Nous, on ne les appelait pas les graillons. De canard, quoi. Voilà, le reste, c'est pas des rillettes, hein. C'est vraiment des graillons. C'est de la peau.
Tu peux m'expliquer comment ça se fait ?
Le foie, le
ouais, foie. Ah bah oui, oui, moi je suis au courant de rien.
Donc le foie est dans la carcasse, comme tu dis. Ouais. Voilà. Donc on ouvre et on glisse ses mains pour attraper le foie sans le casser. Donc on glisse dans le ventre du canard et on tire. Donc on a les mains toutes grasses, tu vois.
C'est voilà. Pas mal de justement te regarder expliquer ça, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir la gestuelle de la sage-femme qui t'a touché.
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu écartes un petit peu l'abdomen du canard et tu tires.
Donc ça, c'était pour le goût, on l'a compris. C'est donc le graton.
Ici, c'est le gris. À Limoges, c'est le grillon.
Alors, il y a le... Ouais, le graton, c'est le canard, mais il y a aussi des gratons de porc.
De porc, oui, même, ouais.
En Bourgogne.
Alors, on parlait beaucoup de goûter. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu mets du Nutella, des choses comme ça. Ma grand-mère paternelle nous faisait du goûter. Alors, tous les jours, c'était différent. Et donc, il y avait la tartine de graton, il y avait la tartine de pâté de porc. Après, il y avait la tartine beurrée avec du sucre par-dessus. Après, il y avait la tartine beurrée avec du chocolat râpé dessus.
Ça, c'était au goûter.
Ouais, ça, c'était au goûter.
Au choix.
Ouais, au choix, c'est-à-dire toute la semaine, tu vois, on faisait des choses différentes. C'était sympa. J'aimais bien être chez mes cousins pour manger des trucs comme ça.
OK. Et donc, une image. Une image qui pourrait, que tu gardes par rapport à ton enfance, en souvenir
Le jardin de mes grands-parents maternels.
Qu'est-ce qu'il avait de particulier?
Ben déjà, il y avait tout.
C'est-à-dire tout, quoi, tout.
Il y avait des asperges. Et il y avait... Alors, mon grand-père cultivait, ça j'ai jamais vu quelqu'un le faire, cultivait les chrysanthèmes. Ah. C'était magnifique. Et le temps, c'était quelqu'un d'un peu nerveux. Et le temps qu'il passait à enlever les boutons de chrysanthème pour avoir un beau chrysanthème en novembre. Et alors, il faisait très froid à l'époque. Donc, vers octobre, il couvrait ses chrysanthèmes pour qu'ils soient prêts pour Toussaint. Il mettait des piquets, il mettait des vieilles toiles de matelas pour les chrysanthèmes. C'était magnifique. D'ailleurs, j'adore cette fleur.
Non, il est vendu, du coup.
Vraiment, ces chrysanthèmes, c'était quelque chose de magnifique. Alors sinon, il y avait les petits pois, il y avait les carottes, il y avait tout.
C'est un jardin extraordinaire. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination.
C'était dans la région de Hoche?
Non, c'était dans le Tarn.
D'accord.
C'était dans le Tarn parce qu'il fallait qu'ils aient une maison près de la gare. Donc c'était à Damiat, dans le Tarn.
Pourquoi près de la gare?
Parce qu'il était ancien cheminot, donc il ne payait pas le train.
Bonne idée.
Et puis à l'époque, on allait à la coopérative à Castres. Enfin, il y avait tout cet ensemble, cette communauté cheminote. C'est-à-dire, oui, on pouvait même faire les courses... Un chemin de fer, c'est incroyable.
Alors, quand tu me parles du potager, ce qui est marrant, c'est que ça vient en image, mais pas en odeur.
Non, non, non. Ça fait l'odeur des chrysanthèmes, peut-être. Non, mais c'est pas une odeur.
Ah,
si, 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 ça, si, si. Alors, ça, c'est fort, c'est fort. Mais non, c'était les couleurs, puis le fait que mon grand-père y allait, puis que l'arrosage du soir, enfin tout ça, c'était. Il y avait un puits dans le jardin, c'était. Non, non, c'était vraiment le jardin idéal, en fait. Les roses, les fleurs. Ils avaient planté un cerisier du bateau. C'est devenu quelque chose de gigantesque. Je l'ai photographié plusieurs fois. C'était magnifique. Il avait trouvé l'eau. Non, non, mais c'était bien. C'était magnifique.
Il est arrivé quoi, cette maison?
Ah, ben, elle a été vendue, bien sûr.
Elle n'a pas été repris encore?
Ma tante... Attends, je sais plus si ma tante était morte. Oui. Ma grand-mère y est restée parce que jusqu'à la fin de sa vie, et puis ma mère a vendu, et voilà. C'était loin en plus. Alors maintenant, les tombeaux sont là-bas, et ben, tu vois, ça fait 18 mois que je ne suis pas allée sur le caveau de mes grands-parents.
Pour le toucher, tu vas peut-être nous parler du canard, justement.
Non, le toucher, c'est plutôt la couture pour moi.
Ouais.
Regarde cette robe. C'est moi
déjà,
qui l'ai faite.
Déjà petite, tu l'as cousée?
Non, je cousais. Enfin, oui, oui, oui. Ah ben alors,
souvenir au niveau du toucher gamine, c'est ça?
Oui, oui, on nous menait à la trique. Hein. Ah oui, non, attends, j'ai fait... J'ai été pensionnaire d'un... J'ai eu la tuberculose. Donc j'ai été pensionnaire d'un... Ça s'appelait un privatorium, enfin tout ça. Et je me souviens avoir brodé... J'ai longtemps vu chez ma mère ça. J'ai brodé de la... Pas de la toile de jute, l'autre. J'ai brodé un truc, un porte-serviette. Oui. Et puis on me faisait... Et puis ma mère m'avait porté des... pour m'occuper, elle m'avait porté des aiguilles et une pelote qui m'ont été piquées par la monitrice. Alors je pensais toujours qu'on me la rendrait quand je partirais, on me l'a pas rendue. Mais c'était précieux, hein, les années 50. C'était vraiment précieux, ça.
T'avais quel âge, là, à cette époque ?
J'avais 7 ans. D'accord. C'est-à-dire qu'on avait une bonne quand on était petite, qui s'occupait de nous toute la journée. Figure-toi qu'elle était très jeune, elle s'est mariée. Elle est partie. Encore une, tu vois, les autres, ils se baignent, ils me laissent sur la plage. Elle part. Et là, j'ai fait de la varicelle, voilà.
Il y avait un lien affectif quand même avec cette bonne.
Oui. Ah, c'était ma mère, elle était extraordinaire. Et elle cousait, elle nous habillait, elle faisait tout. Et les mêmes parents l'ont embauchée, elle avait 15 ans.
Ah ouais.
Ouais, puis on payait rien à l'époque, enfin, je veux dire...
Oui, donc, tu as été vraiment exploitée par ta famille.
Oui, tout à fait. Ouais. Ma mère, c'est le genre. Elle m'a exploitée jusqu'à 70 ans, donc... elle était très... Je m'en suis rendu compte, après, quand j'ai étudié chez Odoul et tout, que ça, c'est pas venu par hasard, cette tuberculose-là. C'est le poumon. Je peux plus respirer. Voilà.
Et du coup, ça se passe comment, justement, ça s'est passé comment pour la tuberculose ? On t'a hospitalisé ? T'as été en sana ?
Ouais, ça s'appelait un préventorium. Mais il y a des choses qui me choquent aujourd'hui, parce que je me dis qu'on sortait de la guerre. On sortait des camps de concentration, tout le monde en avait entendu parler quand même. Et là, si tu veux, dans le sanatorium de Salis du Salat, enfin le préventorium. Alors, donc j'avais une QTI positive. Donc, ma mère a toujours cru au progrès, tu vois, ce qu'il fallait faire là, de ce côté-là. Donc, je ne sais pas comment, par la MSA où elle travaillait, je ne sais pas comment, je me suis retrouvée en préventorium. Là, il y avait 15 jours dans une maison super chouette, tu étais entourée, tout ça. Il y avait 15 jours pour voir à peu près le niveau de, je pense, parce que les souvenirs sont quand même assez flous, pour avoir le niveau de ta maladie, si tu pouvais aller avec les autres ou pas, voilà. Et au bout de 15 jours, on te faisait passer dans des grands bâtiments, genre colonie de vacances aujourd'hui, et donc tu étais avec tout le monde, enfin bon, voilà. Et j'y suis restée quand même 4 mois. Et quand je parle de la torture, non seulement on m'a piqué ma... est-ce qu'on avait besoin de me piquer une pelote de laine, enfin des choses comme ça. Alors là, on vient de manger, c'est mon anniversaire, mais je vomissais à tous les repas et on me faisait manger mon vomi. Mmh. C'est pour ça, quand je te parle de... Mmh. On sortait quand même de la guerre et tout ça, est-ce qu'on avait besoin de torturer les enfants comme ça ?
Et t'étais, tu voyais ta famille ou t'étais isolée quand t'étais en prison ?
Ah, mais j'étais isolée à l'époque.
Donc c'est 4 mois toute seule, quoi.
Non, ma mère était venue. Mais j'ai une photo où je suis rachitique. Mes grands-parents avaient pu venir parce qu'ils venaient par le train. Donc mes grands-parents sont venus. Ma mère venait en scooter. Elle avait un Lambretta à l'époque. Elle venait en scooter de Pioche sur des routes qui étaient difficiles, hein, quand même. C'était... On s'alise sur la Théoche, montée à la Nemezan, tout ça. Et ma mère, en rentrant de me voir, a eu un accident parce qu'un troupeau de moutons est sorti de... C'est la montagne, là. Est sorti d'un bas-fond, si tu veux, et a traversé la route, comme d'habitude. Et ma mère était au milieu, voilà. Donc, oui, ça a été... Et donc, après l'accident, voilà, elle est moins venue, disons, mais bon. Non, elle veut... ma mère était une femme, elle était chiante, tout ce que tu veux, mais elle était une femme de, comment dire, de...
De principe, de valeur,
voilà, il fallait qu'elle vienne me voir. Ça lui coûtait quand même assez cher, et puis un scooter, au salier du salade, c'était pas mal quand même. Surtout les routes de l'époque, quoi. C'était pas très... Ouais, c'est un portrait roulant. Ouais.
Donc ouais, c'est quand même pour l'époque, ça devait être quand même violent, comme ouais. séjour de 4 mois, ouais, parce que t'étais minette, quoi.
Ouais, ouais. Et donc ensuite, nous sommes allés avec ma marraine consulter, suite à ça, consulter un médecin. Et je me rappelle m'être accrochée à ma grand-mère. « Je veux pas y revenir, je veux pas y revenir, je veux pas y revenir. » Et l'année suivante, j'étais envoyée à Luchon, toujours pareil pour le poumon, chez des bonnes sœurs qui ont été adorables, qui avaient des... qui pédagogiquement, je me rends compte, depuis que j'ai étudié tout ça, elles étaient vraiment...
C'était à la pointe.
Ouais, c'était à la pointe. Ah ouais, ouais. Non,
surtout c'est... que ça devait le changer du salaire, donc.
Oui, voilà. Puis c'était une petite structure. On était à Luchon, on était dans le jardin. Bon, après, il fallait aller faire la cure à Luchon. Hein. Mais c'était... Non, non, j'ai fait qu'une cure. Après, bon, après, je me suis habituée au départ de Madeleine. Voilà. Who are you?
I'm the enchanting wizard of Britain. Si tu devais un son qui pourrait illustrer ton enfance, enfin, qui te revient.
Il n'y avait pas trop de son à l'époque.
Ah si,
ta
si,
mère
si c'était...
Rouspète.
Non, c'était la radio. Non, je sais pas, il y avait la radio, il fallait que je me taise. Je sais me taire, hein. Et ouais, non, c'était... Alors, c'était la radio, donc je suis toujours avec la radio. Bon, c'est plus Paris Inter, c'est France Inter.
C'était
mais...
l'ORTF.
C'était... Je sais pas si l'ORTF avait déjà été... fait à cette époque-là, il y avait des choses, je me rappelle, il y avait le sport le dimanche soir avec tout le rugby dans tous les patelins. Alors je connaissais les noms des patelins, mais je pouvais pas te dire où est-ce qu'ils étaient, mais maintenant je le sais. Mais de tout le Midi-Pyrénées, quoi. Mmh. Ah, oui, non, c'est ça, c'est plutôt la radio, radio, et je suis toujours sur la radio. Tu vois.
Paris Inter présente À l'enseigne du cheval d'or, une émission de Janine et André Camp, avec Suc et Serre et leurs chansons, Petit Bobo et ses histoires, Balinglo et son trombone, Henri Droux et sa contrebasse. Réalisation Pierre Billard.
Je me lève le matin, j'allume la radio.
D'accord. Et du coup, si je devais te faire, si tu devais choisir un film qui pourrait illustrer ton enfance, t'as une idée de quel film tu pourrais parler ?
Ah, c'était tous les péplums, hein, le Cid avec Sophia Loren, le...
Ah oui,
Bah, les péplums parce que j'y avais droit. Ma mère allait beaucoup au cinéma, bon, on n'avait pas la télé. D'ailleurs, il a fallu que je quitte la maison pour qu'elle achète la télé, donc 1968-69 à peu près. Donc on a été tardivement télé.
Elle s'appelle Hercule. On prétend que ce n'est pas un simple mortel, mais un demi-dieu. Et qu'il est le fils de Zeus. À la porte de l'Orient, on l'a vu repousser un bloc de pierre que 50 esclaves n'arrivaient pas à retenir.
Et donc du coup, je ne suis plus du tout télé parce que je n'ai pas pris cette habitude et que je m'endors devant les télés.
Et sinon, mais tu vas au ciné quand même régulièrement, ouais, etc. Est-ce qu'il y a un film où tu te dis, ah tiens, je me retrouve dans ce film, ou ça me rappelle mon enfance ou quoi? Il n'y a pas un film
C'était surtout les films, tu sais, avec Jean Marais, les films en costume, c'était la grande époque. J'ai eu Peplum, costume.
KPDP,
oui, c'est. Bon, maintenant, je regarde des films plus art et essai, surtout Kaoche, on était. Vraiment bien un arrêt essai. Ici, c'est plus difficile, il faut y aller. Ouais. Mais oui, non, je suis vraiment film arrêt essai, mais voilà, plus histoire, plus sociologique, plus... Oui.
Et toi, prince félon, infâme meurtrier, puisque tu n'es pas venu à la guerre verte, c'est la guerre verte qui vient à toi. Allez, attaquez.
Il y avait des chansons, justement, qui étaient chantables. Alors, je cherche maintenant... Parce que ce que je reproche un peu au rap ou autre, c'est que moi, je suis incapable de rapper, quoi. Tandis qu'il y avait des chansons, qu'est-ce qu'il y avait comme chanson? Bon, il y avait Dalida, il y avait le Tepaz avec les 45 tours. Il y a eu les Yéyé.
C'est après. Mais
c'est après, ben ça correspond.
On ne sentait rien, gamine?
Si, je chantais. Alors là, je chantais énormément. Comme je n'étais pas encore mariée, personne ne me disait que je chantais faux. C'est qu'on partait en deux chevaux avec ma mère. Pour aller voir mes grands-parents. En deux chevaux, ça faisait 4 heures. Donc, qu'est-ce qu'on faisait dans la voiture? On chantait. Donc là, on chantait des chansons dont j'avais le même répertoire que ma mère. une fleur au chapeau. Voilà. Donc on chantait des chansons de Boy Scout, puisque ma mère avait été éclaireuse, et moi aussi. Et j'étais encore éclaireuse, donc on chantait beaucoup dans la voiture.
Une fleur au chapeau, à la bouche, une chanson, un cœur joyeux et sincère. Et c'est tout ce qu'il faut à nos filles et garçons pour aller au bout de la terre.
Pour finir, je vais te demander un moment de bonheur et un moment de fierté, gamine.
Ah mais j'étais très fière de mes résultats scolaires.
Ah, t'étais parce que première de la classe.
Alors des fois oui, puis des fois c'était à la fin, ça dépendait. Ah, oui. J'avais été vexée, moi j'étais la dernière. Parce qu'on était classés.
Oui.
On était classés tous les mois. Ah oui, parce que j'étais au petit collège. Je n'étais pas dans une école communale. Oh, c'est bourgeois jusqu'au bout, hein. Faut pas quand même.
C'est une école privée, le petit collège, c'est quoi ?
Non. C'était le petit collège, c'est-à-dire que ça nous préparait à rentrer au collège. Alors, au lieu d'être en CP, on était en 10e, 11e, un truc comme ça. Enfin, tu vois, on était en 10e, 9e, 8e, jusqu'à la 6e. Et c'était au petit collège. Alors, au départ, mes parents, du fait de leur divorce, m'ont mis dans une école privée. Donc j'ai su ce qu'étaient les rapports sociaux à un âge très avancé, parce que j'ai vu mettre à la porte ma maîtresse adorée. Ah ouais. Et je peux te dire son nom, Madame Pourcet. Tu vois, je te parle il y a 70 ans, je m'en rappelle encore. Et ça a été...
Quand tu dis mettre à la porte, c'est-à-dire qu'elle ne convenait plus et on l'a mise dehors ?
C'est-à-dire, la pauvre, elle habitait... Alors, on faisait tout à pied à l'époque. Mm. Elle habitait un peu... Je ne sais pas, quelque chose, elle avait retardé. Et c'est elle qui avait la clé du portail. Donc, à l'époque, toutes les familles avaient les poussettes et tout ça, comme aujourd'hui. On était devant le portail qui était fermé. Et la bonne sœur du coin n'avait pas la clé, ce que je trouve d'ailleurs un peu bizarre. Et j'ai vu arriver Madame Pourcet essoufflée. Elle descendait cette rue. Je revois encore, hein, l'école est toujours au même endroit. Hein. Je la revois toute rouge, etc. Et alors, elle s'est pris une avoinée et le lendemain, elle n'était plus là. Elle a peut-être démissionné tout simplement parce que c'était trop. Et moi qui adorais cette femme, vraiment, ça a été, pour moi, ça a été un choc total.
Donc finalement, l'école, c'est le moment de bonheur, quoi.
Oui.
Avec Madame Pourcet.
Ah, et Madame Pourcet, c'est chouette. Alors, ça m'a permis de tripler mon cours préparatoire. Il faut que je te raconte ça parce que j'ai eu le bac à l'âge quand même. Donc, j'avais 5 ans et Madame Pourcet, j'apprends à lire et à écrire sur Lily et Rémi, je crois, un truc comme ça. Donc j'apprends à lire, tout ça. J'étais trop jeune. Donc je redouble mon CP. Donc là, je suis à l'âge. J'ai 6 ans, je suis à l'âge. Et voilà. Et là-dessus, ma mère, qui devait trouver que c'était un petit peu cher, ou je ne sais quoi, il y avait une histoire, me sort de l'école Saint-Paul, qui existe toujours, hein, et me met au petit collège. Donc je rentre en CE1. Mais j'écrivais comme aujourd'hui, des pâtés partout, des coups. On écrivait à la plume.
Sergent-major.
Hein ?
À la plume sergent-major.
Oui, à la plume sergent-major. À l'encre violette. Donc j'avais de l'encre jusqu'au coude. Enfin bref, l'écriture, moi, ça n'a jamais été mon truc. Et la maîtresse, Madame Sabatier, ne me supporte plus. Elle me prend par la peau du cou, enfin, le truc. Elle m'amène en CP. Donc. Et elle prend une fille de CP. Histoire, tu sais, les enseignants pour équilibrer la classe. Hein.
Ouais.
Et donc, je triple mon CP. Et je ne me rappelle plus, mais cette dame était formidable, Madame Herstel. Je pense qu'elle s'est vraiment bien occupée de moi, parce que je me retrouve là-bas. Ma mère, aucun qui a râlé, mais qui n'a fait aucune démarche. Et puis, bon... Alors, c'est aussi, y avait, non, c'était pas payant, mais il y avait un truc. Et donc, je triple mon CP. Donc là, du coup, un an de retard. Je sais qui m'a remplacée parce qu'elle a eu le bac un an après moi. Et, et donc, l'année suivante, je repasse avec cette... C'est une terroriste. Elle nous mettait du scotch sur les yeux, sur la bouche. Enfin, ouais, c'était horrible. Je repasse. Et comme on était en train de supprimer ces classes... qui n'avaient plus à être là, toujours pareil, rationalisation des choix budgétaires... C'était pas la peine de...
C'est bien dit, ça.
Oui.
C'était... Là, je retrouve l'intendant. Ce genre de terme, quoi.
Et donc, je me retrouve en CE1 et il y avait un tableau CE1 et un tableau CE2. Et on était chargé de ceux qui avaient fini le travail de CE1, alors je commençais à être vieille quand même, pouvaient faire le travail de CE2. Et c'est ce qui m'a sauvée, ça m'a permis de me
retrouver.
Et alors elle était tellement vacharde, alors toujours pareil, hein, mes cahiers, je ne te dis pas la couleur qu'ils avaient. Et alors elle dit, ah regardez le cahier de Colette, s'il est moche, d'ailleurs Colette quand elle sera grande, elle sera des vers dans les poireaux. Et là je me lève et je dis, la soupe, je la fais déjà. Et je vois à quelle table j'étais quand j'ai dit ça. Et là, ça a jeté un froid dans toute... Puisqu'on était toutes des petites bourgeoises. Il n'y avait bien que moi qui faisais la soupe, puisque ma mère travaillait. Donc, les autres femmes ne travaillaient pas. Et donc, je te jure, ça... Du coup, là, je pense ne plus avoir été trop embêtée. Et je faisais la soupe.
Ouais. Et le j'avais fait 8 ans, je faisais la soupe. Bouche, la maîtresse, t'as même pas eu un retour de manivelle?
Non. Faut
avoir le cran, quoi.
Non, mais ça l'a sidéré parce que c'était inattendu. C'était inattendu qu'une petite bourge dise « je fais la soupe ». Normalement, je devrais avoir du personnel à la maison pour faire la soupe, ou maman, ou voilà. Et donc moi, le jeudi, j'allais faire le marché, j'allais acheter des légumes, et puis je connaissais les prix et tout. Hein. Aujourd'hui, je ne connais plus les prix, mais à l'époque, je les connaissais. Et je faisais les courses pour ma mère, et je rentrais faire la soupe. Hein. Puisqu'on avait la cuisinière qui est toujours allumée, tu sais. C'était pas un problème.
Bonsoir, les amis. Aujourd'hui, vous savez, Mirabel et Petit Louis ont été vilains.
Oh oui, très vilains.
Ils n'ont pas voulu manger leur soupe,
oui.
Qui était, ma foi, très bonne.
Oh.
Gros ours l'aurait bien mangé, lui.
Oula, oui, moi j'aime bien la soupe. Je descends les voir, patron.
Et donc ton moment de bonheur, tu me disais.
Ah, alors tu vas situer. C'est un défilé pour l'Assomption. Je pense que c'est pour l'Assomption, ça peut être que ça. Un défilé au flambeau depuis Notre-Dame de la Chabanne, que tu dois connaître. Dans les rues du sel, monsieur.
Ah si, d'accord. Ah d'accord, oui.
Tu vois là, la petite église en bois. Là, enfin,
d'accord, et donc il y avait un défilé. Et pourquoi ça a eu un moment de bonheur?
Parce qu'on était tous ensemble. Il n'y avait personne dans les rues à l'époque, tu vois. Il n'y avait pas une voiture, enfin voilà. Donc on descendait en tenant une bougie. Et il y avait une petite corolle en haut de la bougie.
Pour pas avoir
voilà. Et on descendait avec la bougie, on marchait. Et mon grand-père, dont je t'ai dit qu'il avait été baptisé tardivement, était à la fenêtre. Et c'était pas rue de la Chabanne, j'arrive pas à retrouver la maison maintenant. Et il nous regardait passer, et c'était génial. Il faisait nuit, on avait nos bougies, on chantait, Ave Maria, etc. C'était magnifique.
Tu me parlais de ton enfance dans le Gers, et là tu me resitues un truc qui était à Ussel.
Oui.
J'ai besoin d'infos, là.
J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à Ussel, parce que mon grand-père, après la guerre, a été nommé d'abord à... Je me rappelle, ça revient non, plus haut. Au Blanc, c'est là où était ma sœur, ma fameuse première sœur. Et ensuite, il a été nommé à Ussel. Alors, ça me surprend aujourd'hui, mais la gare d'Ussel devait être un gros morceau, un gros truc de triage, puisqu'il y était. Et donc, ils habitaient à Ussel. Et ma grand-mère m'a quasi élevée, puisque le jour où ma mère a eu fini son congé de maternité, elle m'a larguée à sa mère, voilà. Et donc j'ai été baptisée à Ussel. J'ai une photo, donc j'avais déjà 9 mois. Et après, chaque vacances, je l'ai passée chez eux, tant qu'ils ont été à Ussel. Et j'adorais cette maison d'Ussel. Mes grands-parents se gelaient, et c'est là qu'ils sont redescendus dans le Tarn. Donc à la retraite, mes grands-parents... Et toutes les vacances, je les ai passées avec mes grands-parents, et en m'occupant de ma sœur, donc mongolienne, hein, c'était, voilà. Et donc j'avais une relation avec ma grand-mère jusqu'à la fin de sa vie, mais vraiment à la fin de sa vie. D'ailleurs, je l'ai ressuscitée, je suis venue pour son enterrement, je vais dire, elle était un peu comme ça, j'ai dit, mais ça va pas. J'ai dit, il faut que tu prennes tes médicaments. Je veux pas. J'ai dit, tu vas les prendre. Et donc, donc j'ai donné ses médicaments. Et au bout d'une semaine que j'ai passée avec elle, elle était assise dans son fauteuil relax, avec un petit verre de vin blanc à la main, et c'était le 2 février, donc j'avais fait des crêpes. Voilà.
Un truc là que tu me disais, ta mère avait déjà droit au congé maternité à l'époque ?
Ah oui,
déjà
oui.
Je
oui,
pensais
oui,
pas que c'était si vieux que ça.
Elle était à la MSA, elle a toujours pris des... Elle était à la MSA, je pense que déjà... Je ne sais pas si elle était à la Sécu ou à la MSA.
Parce qu'à 74 ans, il existait déjà le congé maternité. Oui, oui, oui. Pour moi, c'est une découverte, oui, oui. Tu vois.
Et bien mieux. Et allaitement.
Ah, en plus.
Elle avait droit à des... Et elle avait eu une... Alors, c'était pour l'aîné, on ne lui a pas redonné pour moi. Tous les vêtements pour bébé. Tout ce qu'il fallait pour un bébé, elle l'avait eu pour Nicole. Ah oui, oui, non, c'était... Ouais. Après, ça a changé. Hein.
Rond, ventre et rond, toi tu vas naître. Rond de ce ventre rond, et nous connaissons.